Oui, moi j'appelle pour me plaindre là. Ça fait quand même plusieurs fois qu'on entend des gros mots là sur votre répondeur là, des bites, des filets à poils. Bon, moi ça commence à me choquer quoi. Si ça continue, je vais me désabonner quoi. C'est plus possible à la fin.
Oui, Daniel, les arrivées, tout le monde là. Je vous appelle ce soir parce que bon, il est un petit peu tard, mais je regarde un petit peu les vidéos des manifs d'aujourd'hui. Il y a un truc qui m'a fait super rire, c'est à Montpellier. Les flics, ils embarquent un squelette. En fait, il y avait une créativité sur la place de la Comédie, des artistes hein, qui ont fait un truc génial. Et ça n'a pas plu. Donc ils ont embarqué le grand squelette avec le gilet jaune. Et ça m'avait fait penser à un truc, il y a un album de Tintin, où les Dupont et Dupont, à un moment donné, je sais plus lequel c'est comme album, ils embarquent un squelette, ils mettent des menottes à un squelette en disant bah, vous êtes coupable, on vous embarque et vous allez vous expliquer au poste. Donc les flics, ils en sont arrivés à ça chez nous en France. En fait, ils ont voulu rendre hommage à Tintin, à Hergé, certainement. Ils ont embarqué un squelette aujourd'hui à la place de la Comédie. Bon, enfin, bon, c'est complètement débile, mais bon, ça m'a fait marrer. Et donc, bah, notre cher président qui a dit qu'il fallait être créatif, bah, il n'aime pas trop, en fait. Bah, il n'aime peut-être pas les squelettes. Bon allez, ciao à tous, c'est Jeff d'un petit village dans le Gard, déconfiné. Voilà. Ciao.
Ouais, le coup du défilé à poil pour le 14 juillet pour les soignantes et les soignants, c'est une bonne idée. En plus, il fait beau, donc a priori, ça devrait pas poser de problème, sauf que ça peut porter atteinte aux bonnes mœurs en vertu du code civil ou d'autres articles à la con. Donc, on peut éventuellement agrémenter la chose de sparadrap ou de croix rouge ou de masque aux bons endroits, de façon à ne pas tomber sous le coup de la loi. Ce serait dommage de se faire aligner bêtement et de leur remplir les poches par mégarde. Cela dit, il n'est peut-être pas non plus forcément nécessaire d'attendre le 14 juillet. Et on peut envisager effectivement de faire des manifs avant le 14 juillet, à poil, avec les mêmes préceptes de précaution juridique, avant donc le 14 juillet. Voilà, à vos sparadraps, à vos croix rouges et à vos pansements. Ciao.
Bonsoir, c'est Rémi. Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie, mais son évolution partant de crise. C'est une citation de Bertolt Brecht. Merci. Bonsoir les là-bas, bonsoir les AMG. À bientôt.
Martine de Seine-et-Marne. Eh bien hier, quelle journée magnifique! À deux, nous avons parcouru 25 km à travers les bois, la campagne. Et puis, nous avons eu la chance de croiser quelques visages sympas, quelques bonjours. Une dame qui nous a proposé de nous donner de l'eau quand on s'arrêtait à admirer sa maison. Quelle est belle la vie parfois, et combien la nature nous fait de précieux cadeaux, nous donne des forces et nous donne tellement envie d'un monde tout en couleur. Voilà. Bonne journée à tous.
Bonjour Daniel, bonjour les ANG. Daniel, je voulais te donner des nouvelles de Michel Pinardon, parce que hier, il a pris son cheval d'acier, je veux dire sa moto, pour faire 500 km et aller voir sa mère. Je suis la femme de Michel Pinardon et j'avais très peur qu'il croise le flic qui avait tabassé l'infirmière, infirmière qui ensuite avait pris soin de lui quand ce flic avait eu le Covid. Bon, bref, j'ai eu peur, mais ouf, pendant 500 km, pas un uniforme en vue, pas un flic, personne. Donc moi je suis contente parce que personne n'a cassé la gueule à Michel Pinardon. Mais Daniel, je suis désolée, Michel il n'a pas pu abonner les flics à la base si j'y suis. À suivre, il doit rentrer en fin de semaine.
Oui, Christophe, Saint-Leu du Val d'Oise. Alors, je ne sais pas si j'ai très envie de faire l'amour avec un masque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on avait eu ce gouvernement dans les années 80, au moment de la crise du sida, eh ben, il aurait fallu tricoter des capotes.
Merci les amis, merci chers AMG pour vos messages d'aujourd'hui. Alors bien sûr, on est triste, c'est beaucoup dire au sujet de la mort de Michel Piccoli. C'est un grand bonhomme et il est mort vieux. Mais c'est vrai que ça nous renvoie à une époque et on a des bouffées de nostalgie. Et je ne sais pas si on le dit suffisamment dans les hommages, enfin ce que j'ai entendu, c'était vraiment un mec de gauche, Piccoli. C'était sérieusement, très sérieusement, un mec qui était à gauche. Et j'ai retrouvé un poème qu'il a lu, un poème de Victor Hugo en hommage à Louise Michel. Et la société Louise Michel, qui a été fondée par Daniel Ben Saïd, évidemment, ne manque pas de le citer eux aussi. Et ce poème, c'est à la suite, après l'écrasement de la Commune de Paris, l'écrasement sanglant de la Commune de Paris, Louise Michel a été jugée par un tribunal militaire, et devant ce tribunal militaire, elle assume son combat révolutionnaire, et elle demande la mort. Elle demande elle aussi à être exécutée aux côtés des 20 000 massacrés de la Commune de Paris. Et c'est une grande poétesse, comme vous savez. Louise Michel, ce n'était pas seulement la grande révolutionnaire, c'était aussi un écrivain, une écrivaine tout à fait puissante. Et elle avait une grande admiration pour Victor Hugo. Et en l'occurrence, Victor Hugo, qui la connaît, qui l'aime, qui l'admire, prend sa défense dans ce poème fameux. Et Michel Piccoli avait voulu donner vie et profondeur à ce texte de Victor Hugo. Voilà, vous allez le trouver à la fin de vos messages. Et nous attendons la suite de vos messages au 01 85 08 37 37.
Roland, Laval, Mayenne, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, donc la question, c'est le masque et l'amour. Eh bien, je pense que ça dépend de la position. Après, il y a certains préliminaires, ça va être dur. Hein. Par exemple, puisqu'on est entre nous, le cunnilingus avec le masque. Alors là, je crois que c'est râpé. Hein. Bon, il faudrait que je retrouve mon bouquin du Kama Sutra. Il y a sûrement des positions où, avec le masque, c'est possible. Et d'autres, non. Les gestes barrières. Une petite réflexion sur les bancs de plage qui sont barrés par du ruban. Bon, le ruban, ça s'enlève. Hein. Salut.
Camping, l'espace des tentes. The Seed, collectif A4.
Ouais, salut Daniel, salut à tous. C'est Sylvain de Lyon. J'appelle parce que là, je suis tombé sur un article traduit donc en français, de l'anglais canadien au français. Article de Naomi Klein, que vous connaissez tous bien, qui a déjà été interviewée, je crois bien, par Daniel et ses compères et ses consoeurs. Et là, cet article est traduit et paru dans la revue écologiste terrestre au pluriel, hein, .org. Il est intitulé « La stratégie du choc du capitalisme numérique ». Et là, alors, c'est un long texte hein, que je recommande à tout le monde, vraiment, je recommande vraiment à tous. Et au cours de cette lecture, je suis tombé sur ce passage que je vous lis. Anuja Sonalker, la PDG de SteerTech, une entreprise du Maryland qui vend des technologies de stationnement autonome, a récemment résumé le nouveau discours du capitalisme numérique. J'ouvre les guillemets. On assiste à un net engouement pour les technologies sans contact et sans humain, a-t-elle déclaré. Je réouvre les guillemets. Les humains sont des risques biologiques, les machines ne le sont pas. Donc, fermez les guillemets. Et cet extrait, très 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 court, où Naomi Klein mentionne le propos de cette PDG qui fait partie de ces potentats de la Silicon Valley, dit tout de leur projet, de ce qui les meut, et c'est terrifiant. C'est terrifiant, et surtout, ça dit vraiment ce qu'est le capitalisme, en tout cas la logique capitalistique, qui est l'expansion continue ad nauseam de la marchandise, de l'espace de la marchandise, et du coup de l'espace de la valeur, de la production de la valeur marchande. Tout doit y passer. Mais non seulement c'est ça, mais puisque c'est un besoin illimité de s'étendre, tout ce qui présente un obstacle est problématique. Et là, ce qui est problématique, c'est l'humain, l'être humain en tant que tel. Un être humain, c'est problématique puisque c'est limité. Voilà, c'est ce qui fait qu'il est humain, c'est ce qui fait qu'il est obligé, qu'il en vient même face à sa condition humaine à sublimer, comme on dit, à même à imaginer, à inventer, à créer. C'est pour surmonter cela, c'est aussi pour transcender cela. Et cette misérable condition humaine qui est faite de limites, de besoins, voilà, enfin, un humain, ça ne se fabrique pas, eh bien, voilà, c'est problématique. Il faut le remplacer par des machines, ou en tout cas, il faut le conformer à des machines, il faut le contrôler, le mettre à la merci des algorithmes, etc., et le déposséder de ses capacités humaines propres. Et là, dans le texte, il est question, évidemment, enfin, il est question notamment d'un certain Schmitt, qui est passé par... qui était à la tête de Google, d'Alphabet, et qui conseille le ministère de la Défense, hein, qui est lui aussi un potentat de la Silicon Valley, et qui infléchit voilà, la politique américaine en ce sens. Il faut d'ailleurs calquer, selon lui, le développement des dispositifs de contrôle, qui sont des dispositifs de contrôle totalitaires, et calquer sur le modèle chinois, puisque dans cette rivalité, dans cette guerre marchande, tout est bon à prendre pour pouvoir, comment dire, vaincre l'adversaire et le dépasser, toujours le dépasser. Voilà. Donc, une vaste réflexion qui s'en dégage, hein, quand même, sur les limites, sur le consumérisme et puis la vision que l'on se fait de l'homme. Voilà. L'homme ne s'invente pas, c'est un donné. L'être humain est un donné. Et c'est ce qui pose problème à l'entreprise capitaliste qui n'a comme volonté que de se débarrasser de cet être limité et pour le remplacer par des machines. Voilà. Et s'il y a un grand remplacement, le fameux grand remplacement des ethnicistes et néo-nazis de tout poil, ce n'est pas celui qu'on croit. Le grand remplacement qui est désiré par ces personnes-là, c'est celui de l'homme par la machine, afin de le soumettre une fois pour toutes à la logique marchande. Voilà. Eh bien, sur ce, continuez tous la lutte, ne lâchez rien, et à la prochaine.
Dédié à Benjamin Tessier, la médaille. Une infirmière avait donné, lors d'une épidémie soudaine, son savoir-faire, sa santé, son temps, sans ménager sa peine. Dans sa grande condescendance, le roi un jour la convoqua pour lui donner sa récompense, une médaille en chocolat. Une fois devant le souverain, dans le faste de son palais, elle repoussa de la main la breloque qu'il lui tendait. « Je ne veux pas votre médaille, j'attraperai de l'urticaire. Sire, comme fruit de mon travail, je préfère un meilleur salaire. » Le roi fit chasser l'insolente. Dans la rétribution masquine, mordit de façon virulente, brisa une canine. C'était Georges-Philippe Taladiard. Salut.
Oui, bonjour, ici c'est Yolande de Gascogne. J'entends régulièrement sur le répondeur les gens qui écoutent les oiseaux. En fait, on m'a raconté une histoire. Le matin, vous entendez les oiseaux qui chantent. En fait, il n'y en a qu'un qui chante. Les autres l'engueulent parce qu'ils veulent dormir. Allez, au revoir les amis.
Victor Hugo, pour Louise Michel. Viro Major. Ayant vu le massacre immense, le combat, le peuple sur sa croix, Paris sur son grabat, la pitié formidable était dans tes paroles. Tu faisais ce que font les grandes âmes folles, et lasses de lutter, de rêver, de souffrir, tu disais « J'ai tué ». Car tu voulais mourir. Tu mentais contre toi, terrible et surhumaine. Judith la sombre juive, Aria la romaine, eussent battu des mains pendant que tu parlais. Tu disais au grenier, j'ai brûlé les palais. Tu glorifiais ceux qu'on écrase et qu'on foule. Tu criais, j'ai tué, qu'on me tue. Et la foule écoutait cette femme altière, s'accuser, tu semblais envoyer au sépulcre un baiser, ton œil fixe pesait sur les juges livides, et tu songeais, pareil aux graves Euménides. La pâle mort était debout derrière toi, toute la vaste salle était pleine d'effroi, car le peuple saignant et la guerre civile. Dehors, on entendait la rumeur de la ville. Cette femme écoutait la vie au bruit confus, d'en haut, dans l'attitude austère du refus. Elle n'avait pas l'air de comprendre autre chose qu'un pilori dressé pour une apothéose. Et trouvant l'affront noble et le supplice beau, sinistre, elle hâtait le pas vers le tombeau. Les juges murmuraient qu'elle meure. C'est juste, elle est infâme, à moins qu'elle ne soit auguste, disait leur conscience. Et les juges, pensifs, devant oui, devant non, comme entre deux récifs, hésitaient, regardant la sévère coupable. Et ceux qui, comme moi, te savent incapable de tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu, qui savent que si l'on te disait « D'où viens-tu ?», tu répondrais « Je viens de la nuit où l'on souffre. Oui, je sors du devoir dont vous faites un gouffre. Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ton oubli de toi-même à secourir les autres, ta parole semblable aux flammes des apôtres, ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain, le lit de sangle avec la table de sapin, ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âme attendrissement qui dort sous ta colère, ton long regard de haine, à tous les inhumains, et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains. Ceux-là, femme, devant ta majesté farouche, méditaient. Et malgré l'amer pli de ta bouche, malgré le maudisseur qui, s'acharnant sur toi, te jetait tous les cris indignés de la loi, malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse, voyez resplendir l'ange à travers la méduse. Tu fus haute et semblas étrange en ces débats, car chétifs comme sont les vivants d'ici-bas, rien ne les trouble plus que deux âmes mêlées, que le divin chaos et les choses étoilées, aperçut tout au fond d'un grand cœur inclément et qu'un rayonnement vu dans un flamboiement.
Le répondeur de là-bas si j'y suis, 01 85 08 37 37.
Camarade, reprends courage, tu n'es pas seul.